Combien d'entre vous suivent un peu les informations? Un peu? Bon, je vous donne des nouvelles. Ce matin, en sortant, je me suis aperçu qu'il y avait un troupeau d'éléphants qui volait vers le sud. Est-il possible? Oui, ils étaient roses, mon frère, ils étaient roses. Et après, en arrivant sur la route, j'ai vu un renard qui ramenait une poule blessée pour être soignée auprès du vétérinaire du coin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il y a des informations qui nous arrivent de tous les côtés et je suis très étonné que les gens ne considèrent pas à juste titre certaines vérités. Non? Et on voudrait nous faire accepter, gober, excusez-moi le propos, certaines choses qui ne peuvent pas et ne devraient pas être ainsi annoncées. Mais comment voyons-nous et de quelle humeur sommes-nous face à ce que nous voyons autour de nous? Hier matin, j'écoutais, je regardais le journal, parce que je me dis, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est important aussi de pouvoir se dire, Seigneur, où nous en sommes, puisque bientôt ton retour est là. Amen. Est-ce que j'arrive, moi, à me rendre compte, est-ce que le monde se rend compte de tout ce que tu es en train de faire pour annoncer ton arrivée? Et j'ai entendu parler quelqu'un qui disait qu'il sonnait la fin de l'abondance. A sonné la fin de l'abondance. Et suite à ça, il y avait une enquête sur l'état d'esprit des Français. Donc j'ai la source, si vous voulez, venez me voir, je vous la donnerai. Vous irez vous-même revérifier. Donc, l'état d'esprit des Français, 44% lassitude, 40% nostalgie. C'est ceux qui se disent, avant, c'était mieux. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment mieux, à quel moment ça a été mieux. 31% tristesse. Et après, 30% sérénité. Il y a un 30% de Français pour qui tout va bien. Alors peut-être c'est ceux qui ont certaines conformités, je dirais leur compte en banque est assez confortable, sont sereins, et 30% confiance. Alors c'est étonnant, en lisant ça, alors ça va au-delà du 100%, parce que 44 plus 40, ça fait déjà 88, mais il y a un 31%, il y a encore un 30 et un 30. Alors je ne sais pas sur quel pourcentage on peut calculer tout ça, peu importe, mais ce qui m'a interpellé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est sur cela que je voudrais m'entretenir parce que moi, je ne saurais pas comment être juste, être précis sur la vision de l'état d'esprit des Français. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, nous lisons ce texte qui dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à notre génération aujourd'hui par ces hauts et ces bas qui, on pourrait se dire, ont toujours existé. Mais aujourd'hui, face à l'état d'esprit général de notre pays, l'état d'esprit, je dirais pas seulement du pays, parce qu'on pourrait dire c'est loin le pays. On est dans un autre pays. Hein? Vous allez dans certaines régions, ils vous diront qu'ils ne sont pas en France. Ils sont dans leur région. Alors, je ne vais pas citer lesquelles, parce qu'on a tous un peu cet état d'esprit très ancré, très fier, hein? Humble, mais fier de l'être quand même. Et il est question pour moi de me dire, Seigneur, quel est l'état d'esprit de l'humanité? Certains sont tombés dans la lassitude, d'autres dans la nostalgie, d'autres dans la tristesse, d'autres se disent tout va bien. Il n'y a pas de souci. On ne voit rien de dommageable, on ne voit rien qui nous fasse craindre pour l'avenir. Et pourtant, la Bible dit au jour du bonheur, jouis du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchis. À quoi réfléchissons-nous? Vous savez, souvent, nous comprenons la valeur des choses qu'après les avoir perdues. N'est-ce pas ? Dans Ésaïe, chapitre 65, verset 12, il dira « Car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Je me disais, alors que Dieu nous dit au temps du malheur, réfléchis, à quelque part, Dieu veut attirer notre attention en nous disant, attention, il est temps de considérer ce qui a de la valeur, ce qui est important, ce qui est primordial, et ne pas passer à côté. Et le texte nous dit d'Ésaïe, j'ai appelé. Pas de réponse. J'ai parlé. Vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal et vous avez choisi ce qui me déplaît. On pourrait se dire, mais pourquoi tous ces bouleversements ? N'est-ce pas ? Bouleversement climatique, bouleversement social, bouleversement moral, bouleversement, vous pouvez ajouter tout ce que vous souhaitez à la fin. Jérémie chapitre 44, verset 23, on voit que la parole de Dieu nous dit, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas marché selon sa loi, ses prescriptions, ses préceptes. C'est pour cela que ce malheur vous est arrivé tel qu'il est aujourd'hui. Que faut-il à l'humanité ? Que faut-il au monde ? Que faut-il à notre pays pour finalement entendre la voix de Dieu ? Quand vous vous tapez par erreur avec un marteau sur les doigts, que faites-vous ? Non, ça c'est ce que vous dites. Vous dites « aïe », vous ne faites pas « aïe ». Parce qu'autrement, montre-moi comment tu fais « aïe ». Vous dites « aïe ». Mais la question, c'est qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous recommencez à frapper sur les doigts ? Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre aujourd'hui que tout ce que nous avons fait, en effet, nous fait du mal ? C'est contre nous-mêmes que ça se retourne, parce qu'au lieu d'arrêter nos erreurs, on continue, on persiste, on insiste et on signe. Et Dieu nous dit, c'est parce que vous avez agi comme ça que vous êtes dans l'état où vous en êtes aujourd'hui. Dans le livre de Amos, au chapitre 8, à partir du verset 10, nous pouvons lire ce texte qui interpelle, où Dieu nous avertit. Rappelez-vous, au jour du bonheur, profite. Mais au jour du malheur, réfléchis. Et Dieu dit, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et son avenir ne sera plus qu'un jour d'amertume. Voici les jours viennent. Oracle de l'Éternel. Waouh. Waouh. On pourrait se dire, mais c'était pour le temps d'Amos. Vous savez, du temps d'Amos, les hommes faisaient ce qu'on fait aujourd'hui. Et comme Dieu demeure toujours juste et droit, il nous rappelle les mêmes choses à nous aussi aujourd'hui. Et si on considère bien les erreurs qui ont été faites dans le passé, on aurait dû en tirer une leçon. Quand vous allez replanter un clou, qu'est-ce que vous allez faire ? Pourquoi ? Ah ! Vous allez réfléchir et vous dire comment je peux bien planter un clou sans me planter les doigts. Comment je peux faire de manière à ne plus à nouveau me blesser. Jusqu'à quand l'humanité va continuer à se frapper sur les doigts au lieu de se dire Seigneur, aide-moi à changer. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et regardez l'avertissement de Dieu. On suit dans cette lecture de Amos. Où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Ça veut dire qu'il y aura un moment où les hommes, finalement, ils se diront, mais attends, revenons à la parole de Dieu. Recherchons la vérité. Et ils parcourront toute la terre sans trouver. On pourrait dire, mais c'est là, ô Éternel, que tu dois répondre ta parole. C'est quand il y a le besoin. Mais vous savez, quand on dit quelque chose à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, déjà, il faut beaucoup de patience pour arriver à trois. Hein. Mais quand vous le répétez pendant des siècles, il y a un moment où vous n'avez plus envie de rien dire. Parce que tout a été dit. Et malheureusement, l'être humain n'a pas tenu compte, n'a pas recherché à revenir et à trouver. Alors aujourd'hui, que nous entendons tout ce que nous entendons et que nous voyons tout ce que nous voyons, et que nous disons tout ce que nous disons. Quelle est l'analyse qu'on fait ? Parce qu'on pourrait repartir de ce lieu en se disant « Ok, c'était pas mal. J'ai entendu un message intéressant, surtout ça a commencé par un troupeau d'éléphants qui volent. Mais j'ai fait exprès de vous dire quelque chose qui n'est pas possible, qui est gros comme une maison. Non ? Parce que si un jour vous me téléphonez, vous me dites « J'ai vu un troupeau d'éléphants qui volent », je vais vous dire « Écoute, fais attention à ne pas avoir pris trop de médicaments. » Hein ? Et je suis sûr que vous avez pensé la même chose quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais les questions pour nous de nous dire qu'il y a un tel bouleversement qui est en train de se produire dans la nature en tout entière, qui fait qu'on devrait réfléchir à ce qui est en train de se passer. La terre souffre. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Alors, entendre dire certaines choses en disant ben, « c'est la fin de la largesse », je me dis « il y a autour de nous des gens qui ne connaissent pas cela ». C'est trop facile, c'est trop simple de sortir des phrases, mais je ne veux faire de procès à personne, que Dieu me garde, ce n'est pas mon but. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a tellement de choses qui nous amènent aujourd'hui, même nous qui sommes là, et peut-être que nous avons déjà pris notre engagement avec le Seigneur et gloire à Dieu, très bien. Mais qu'est-ce que je fais ? Quel est mon état d'esprit ? Nous avons chanté tout à l'heure « Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. » Non ? Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ah ! La suite, c'est sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Vous savez, on chante parfois des chants. Je me demande jusqu'à quel moment on les vit. Il y a des belles paroles, des paroles qui nous touchent, des paroles que quand on les prononce, on se sent pris en profondeur. Notre âme, elle est obligée de se placer devant Dieu. Il y a des chants qui nous amènent, frères et sœurs. Moi, il y a des chants que je ne peux pas chanter jusqu'au bout parce que ça me prend de manière profonde. J'ai les larmes qui descendent tout seul et pourtant, je ne suis pas un émotionnel, hein, croyez-moi. Mais la question est, qu'à un certain moment, Dieu ne veut pas qu'on tombe dans le fait de dire ou d'entendre et de ne plus vivre les choses. Alors, comment je considère les temps dans lesquels je vis ? Parce que certes, je peux prendre une position et de dire, moi, je veux marcher avec Jésus. Très bien. Mais il est question pour nous, et Dieu nous appelle à une obéissance. Alors, où nous en sommes avec notre obéissance à Dieu ? Obéissons-nous à 10%, 20%, allez. 30%. Est-ce que Dieu peut se contenter de 50% d'obéissance ? À votre avis, qui d'entre nous serait content d'avoir un enfant qui obéit à 50%? Quelle obéissance attendez-vous d'un enfant ? Comment ? 100%. Mais est-ce que Dieu n'a pas le droit de prétendre de nous une obéissance à 100%. Alors je me pose moi-même la question, et chacun peut faire pour soi-même, ou on peut faire semblant de rien, est-ce que j'obéis à 100% à Dieu ou pas ? Puisque il a des exigences, non ? Alors, on pourrait se dire, ok, on vit dans un temps de bouleversement à tel point qu'on peut avoir même peur. Moi, j'ai eu des discussions avec des jeunes couples qui me disaient, vous savez, pasteur, je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Parce que le monde qui est là me fait tellement peur que je me dis, est-ce que je risque pas de lui offrir du poison au lieu du bonheur. Et certes que tout ce que nous voyons peut nous laisser dans ce sens-là si Christ n'est pas notre ami. Mais du moment que je fais de Christ cet ami fidèle et tendre, je crois que mon avenir devrait être avec de la véritable espérance. Et si aujourd'hui je me rends compte que j'étais malheureusement moi aussi sourd à l'appel de Dieu, égoïste face à ce que Dieu attendait de moi, je dirais indiscipliné par rapport à toutes les règles que Dieu a pu placer devant mes yeux, des règles justes, bonnes, véritables, sur lesquelles nous ne pouvons rien redire. Si tout le monde respectait les règles de la parole de Dieu, je peux vous dire, on pourrait sortir de chez nous sans besoin de fermer la porte à clé. Mais je crois que chacun de vous, en sortant de chez vous, vous avez fermé votre porte. Et si vous êtes un peu comme moi, vous vous dites, mince, j'ai fait 10 pas, mais est-ce que j'ai fermé la porte ? Je reviens en arrière, je contrôle, je tire, je repars après, peut-être je réponds à un SMS, je me dis, mince, mais est-ce que j'ai fermé la porte ? Et je reviens en arrière. Ça arrive, hein. C'est la fatigue. Mais je n'ai pas envie de partir en me disant, mince, je n'ai pas fermé la porte. Il m'est arrivé parfois de descendre le matin et de me dire, et de dire à ma femme, tu sais qu'on n'a même pas fermé la porte d'entrée. Ah ben oui, on était pris. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous prendre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est devant nous, ce qui est le plus important, c'est de nous dire, le Seigneur revient, est-ce que ma vie est en ordre ? Est-ce que ma famille est en sécurité vis-à-vis de l'éternité ? Est-ce que j'ai fait le nécessaire après le reste ? Ce n'est pas important. Parfois, on attend et on veut donner à Dieu un chrétien parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Seigneur, je viens à toi du moment que je ne fais plus de péché. Alors, il faut m'expliquer, si toi, tout seul, tu peux arriver au point de ne plus faire de péché, pourquoi tu as besoin de Jésus ? C'est justement parce que je suis un pécheur que j'ai besoin de Jésus. Et c'est parce que je viens à Jésus qui m'aidera à me séparer de mon péché. Ça ne sera jamais l'inverse. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que même le sacrifice de Christ était inutile, il n'était pas nécessaire. On est capable de se sauver par soi-même. Et ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la folie. Alors, le texte dit qu'à un certain moment, il y aura faim et soif. De quoi ? Non pas de pain, non pas d'eau, mais de la parole de Dieu. Alors, la question, est-ce que nous avons soif et faim de la parole de Dieu ? Est-ce que c'est ce que nous désirons ? Est-ce que nous le considérons une nourriture nécessaire pour notre vie ? Non pas ouvrir la Bible que quand on vient à l'église, et encore. Il m'est arrivé parfois de me retrouver à un temps de partage biblique et de voir des personnes avoir du mal à trouver les textes dans leur Bible. Alors quand une Bible, elle est neuve, ça arrive à tout le monde, hein, moi en premier. Les pages, elles sont tellement collées, hein. Alors il faut le temps que ça se fasse. Hein. Je me rappelle d'une jeune femme qui était venue, elle s'approchait du Seigneur. Elle avait acheté la plus belle des Bibles qu'il y avait au stand biblique. La plus belle. Couverture en cuir, tranche en or, anglais. C'était la totale. Grand caractère. Et je la vois arriver avec cette Bible, j'ai dit, waouh ! Magnifique ! Mais elle a eu cette vérité dans son cœur de me dire, pasteur, j'ai acheté la plus belle des Bibles que j'ai trouvée, mais je ne sais pas par où commencer. Elle me dit, ne riez pas de moi. Je dis, que Dieu me garde. Tu sais, ma sœur, on a tous commencé sans rien savoir. Et encore aujourd'hui, on a tellement à découvrir. Donc, enlève-toi ce complexe et ne t'inquiète pas. Et j'ai commencé à lui expliquer l'Ancien Testament. Là, tu trouves le Nouveau Testament. Regarde, si tu ouvres la Bible au centre, tu tombes en plein dans les psaumes. Et comme ça, tout doucement, elle a commencé à découvrir la parole de Dieu et à la lire. Elle me dit, mais c'est magnifique. J'ai acheté la plus belle des Bibles. Je dis, c'est vrai, mais si tu prenais une Bible à 2,50 €, tu avais le même contenu. Mais tu as bien fait, tu as choisi, tu as voulu quelque chose qui te plaisait. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas la couverture en cuir, ce n'est pas la tranche en or. C'est le texte. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui te parle. Ésaïe 55, versets 1 à 3, dira ceci. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous ? Pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'aient pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez des mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Parfois, on se lance dans plein de projets en voulant presque acheter une place au paradis. En pensant que par nos efforts, on va pouvoir tendre, voire même, allez, obliger à Dieu à nous ouvrir lui-même la porte. Ah, tu ne m'envoies pas ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, c'est toi qui m'ouvres la porte. J'étais tellement bon dans ma vie, Seigneur. La parole de Dieu, il nous invite à être plus tempérés et déjà commencer par le fait de dire, Seigneur, j'ai soif et faim de toi. Sauf que je n'ai pas les moyens. Parce que je ne pourrai jamais payer ce que toi tu veux me donner. Alors le texte est dit, venez et achetez et mangez sans payer. Alors ça, comment faire? De quelle manière je peux acheter sans payer? On pourrait passer quelques nuits blanches à réfléchir. Comment je peux acheter sans payer? Qu'est-ce que j'ai qui a de la valeur pour Dieu au point de dire, ok, tu me donnes ça, voici, je te donne la bonne parole. De quelle manière je peux, non pas acheter le paradis, hein. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour finalement m'offrir ce dont j'ai vraiment besoin? Ta position, il s'en manque. Tes sous, il n'en a pas besoin. Ta maison, elle peut être très belle ta maison, hein. Tant mieux pour toi. Mais Dieu, lui, il habite dans un palais. Non? Qu'est-ce que Dieu peut attendre de vous? L'évangile, ce n'est pas que pour les personnes qui doivent découvrir le Seigneur. Je me rends compte de plus en plus, et je dis ça avec un grand respect, qu'il y a très souvent des personnes qui ont cheminé avec le Seigneur, mais qui n'ont jamais saisi l'évangile. Qui ont pris à bras-le-corps une religion sans avoir jamais marché par la foi. Et là, le texte, ce qu'il me dit, c'est qu'en réalité, il y a un prix que Dieu attend de ma part. Et ce prix, il est question de mon cœur. de mon obéissance, de ma reconnaissance, de la capacité de dire, Seigneur, pour moi, ce que toi tu m'offres, il a plus de valeur que toute autre chose. Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Toujours Ésaïe 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le texte qui disait, il y aura un moment où il y aura faim et soif, mais on ne trouvera pas la parole de Dieu. Et là, il nous dit, et pour moi, c'est un avertissement. Alors, je ne veux pas dire que c'est la sonnette de la dernière heure, mais presque. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Faim et soif de ce qui a une valeur éternelle. Mais il nous dit, revenez, cherchez, invoquez-le. À quelque part, Dieu attend qu'à un certain moment, on ose crier à Dieu et dire, Seigneur, je reconnais ma misère, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous connaissez l'histoire du roi David. Un homme qui a été appelé, cherché par Dieu alors qu'il était en train de s'occuper de ses brebis. Pardon, les brebis de son père. Ce n'était pas les siennes. Il était juste manœuvre. Et ses frères, ils le considéraient pas grand-chose. Lui, ce n'était pas un soldat. Lui, ce n'était pas un héros. C'était juste le gardien des brebis de papa. Et quand ça a été le moment que le sacrificateur est venu pour chercher celui qui devait venir, devenir roi, Isaïe lui présente tous ses fils qui ont quand même une certaine carrure. Le plus grand, il était grand. Hein ? Samuel se dit, c'est lui. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Et il passe en revue tous les fils d'Isaïe. Il dit, mais ils sont tous là, ceux que tu as ? Il dit, non, il y a le petit dernier. S'occupe des brebis, lui. Pas grand-chose, lui. Même les autres, ils ne le voient pas trop bien, parce que David, il a un caractère un peu spécial, il est teigneux, David. Mais c'est celui-là que Dieu voulait. Et je voudrais vous dire que quand Dieu veut quelqu'un, il va le chercher là où il est. Et si Dieu vient te chercher, tu devrais te sentir honoré de dire « Dieu est venu me chercher ». Dieu ne m'a pas laissé dans un coin alors que tout le monde, même ma famille, ne m'a pas considéré. Dieu a considéré que j'avais de la valeur à ses yeux. Il est venu me chercher. Merci mon Dieu. Non ? C'est encourageant ça. Et David devient roi. Waouh ! Pas avec des petits combats, mais des gros combats. Il est marié à une femme qui ne l'aime pas, un beau-père qui voudrait le tuer. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Mais David devient roi. David a du pouvoir. David a de l'autorité. Et David, malgré tout ça, en connaissant l'amour de Dieu, commet une erreur. Il va prendre la femme d'un autre. Il va faire de manière que cet homme meure injustement, indignement. L'histoire, vous la connaissez. Et il y a un moment où Dieu dévoile le cœur de David. Moi, je crois que Dieu est en train de dévoiler le cœur des hommes. Tout ce que nous avons fait, semé et caché est en train de ressortir. Tout ce que les hommes ont fait en cachette, maintenant est crié sur les toits. Tout ce qui a été mis enfoui dans la terre, Dieu est en train de le faire ressortir. C'est la charrue qui passe. Et qui passe pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cœurs. Ce qui avait été caché, ce que les hommes ne savaient pas, Dieu est en train de le faire sortir parce que ce qui a été fait dans le secret sera crié sur les toits, dit la parole de Dieu. Et nous avons intérêt, frères et sœurs, nous en premier en tant qu'enfants de Dieu, de dire Seigneur, Moi, Seigneur, je veux invoquer ton nom. Viens à mon secours. Viens m'aider. Seigneur, il y a des choses encore que j'ai besoin de régler. Oui, Jésus dira, le Seigneur dira, Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées. Seigneur, donne-moi ta pensée. Accorde-moi ta grâce. On fait une dernière lecture. C'est toujours en Ésaïe 55. À partir du verset 9 au verset 13. Et ça pour vous dire qu'il y a seulement Dieu qui peut nous permettre d'atteindre ce qui n'est pas à notre portée. Peut-être dans votre cœur, peut-être dans ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami, tu te dis, mais moi je fais tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. Je voulais apprendre l'anglais. J'ai tout essayé. J'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. On a essayé de vouloir m'apprendre l'allemand. Je pense que ceux qui ont essayé de m'écouter sont repartis en courant, ils avaient mal aux oreilles. Et je pourrais à un certain moment dans ma vie, dans ma recherche, dans mon désir de plaire à Dieu, faire des choses, mais jamais y arriver. Pourquoi ? Parce que j'essaie avec mes propres forces. Mais je me trouve à me battre avec quelque chose de taille. Pas mon voisin, pas mon épouse, pas Satan, moi-même. Parce que vous savez, Satan se sert de ce qu'on lui donne. Il n'est pas créateur, il se sert de ce qu'on lui donne. Si on lui donne de l'écoute, il va mettre en nous du doute. Si on lui prête notre bouche, il mettra en nous du mensonge, voire pire. Si on lui donne nos mains, il nous pousse au meurtre. Si on lui donne nos pieds, il nous amène dans le mauvais chemin. C'est à nous de dire, je ne veux pas, je ne veux plus que tu aies des droits dans ma vie. Donc le premier combat, et je dirais que le premier défi, est avec soi-même. Ésaïe 55, versets 9 à 13, il nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamations devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. » Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire premièrement qu'il y a des pensées qui nous dépassent, frères et sœurs, et que par nous-mêmes on ne pourra jamais les atteindre. J'ai besoin de Dieu. Ces pensées ne sont pas mes pensées. Alors ça veut dire que mes pensées, je peux les mettre de côté. Ça ne sert à rien. Mais ces pensées sont tellement hautes que comment je peux les atteindre si Dieu ne m'élève pas? Non? La vision de Dieu, elle est bien plus haute. Alors quelle espérance nous avons dû? C'est celle de savoir que Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle ait un effet dans notre cœur, dans notre vie. Mais il faut qu'on ait envie de manger la parole de Dieu. Il y a des chapitres qui sont durs à manger. Si vous avez juste une moitié de dentier, vous dites, Seigneur, ça ne passe pas. Il faut me redonner le dentier tout entier. Seigneur, il y a des chapitres qui sont durs, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, Et parce que, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. J'y arrive pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et Dieu est capable de faire qu'on comprenne sa parole. Lire sa parole, nous nous approchons comme un enfant, disant, Seigneur, par ton Esprit Saint, fais-moi comprendre. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ouvre mon intelligence spirituelle. Et là, la parole de Dieu devient pour nous comme du miel. Quelque chose qui nourrit notre cœur, notre âme, et qui produit un effet dans notre cœur. Ça veut dire qu'il y a une transformation. Puisqu'il dit, vous sortirez dans la joie, alors qu'avant on était en quoi ? Dans l'inquiétude, dans les problèmes. Puisque la parole de Dieu nous dit, quand tout va bien, réjouis-toi, mais quand tout va mal, réfléchis. Il est question pour nous de revenir à la paix. Il est question pour nous de retrouver la joie, malgré que peut-être ce qui nous entoure n'a pas forcément changé, peut-être même il s'est empiré. Comment je peux vivre dans la paix et dans la joie alors que le monde va de pire en pire ? Tout simplement parce que je mets ma confiance en l'Éternel. Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur a besoin. Non pas tout ce que je désire, parce que ça, si on fait ça, on est pire que les enfants gâtés. Hein ? Mais Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Et il dit que tous les arbres battront des mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu déjà, vous, un arbre battre des mains ? Hein ? Non ? C'est quoi le petit vent qui souffle ici de temps en temps ? À quelle vitesse vous l'avez vu, vous, souffler ? Dites ! 100 km/h, 110. Est-ce que les arbres réagissent comment à ce moment-là ? Ah, ils frappent des mains d'un coup, les arbres, les uns contre les autres. Non ? Mais là, il est question pour nous, malgré les bouleversements que le monde peut connaître, nous devons avoir un bouleversement intérieur, au point d'être dans le calme alors que dehors, il y a la tempête. Être dans la paix alors que dehors, il y a la guerre. Être dans la joie alors que le reste du monde est dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que le temps de l'abondance est terminé. L'annonce a été faite. L'affiche mortuaire, elle va sortir prochainement, peut-être dans les prochaines impôts. Jérémie 31, 17, il dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Il y a de l'espérance pour ton avenir. Comment voyons-nous le futur ? Comment voyez-vous l'avenir ? Dites-moi. Ah, mon frère, quand j'étais jeune, je voyais bien l'avenir. J'avais tellement d'espérance. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux ? On est plus près de la fin que du début. Et la fin de quoi ? Quelle fin ? Pour moi, la fin n'est pas ici-bas. Non ? Où est notre espérance ? Donc, je n'ai pas à avoir peur d'une fin quelconque ici-bas. L'important, c'est d'avoir bien démarré dans le ciel. N'est-ce pas ? Donc, quoi qu'il arrive, Seigneur, mon espérance est en toi. Si demain, il y avait une catastrophe, ben, Seigneur, mon espérance, elle est en toi. Alors, certes, on ne va pas espérer les problèmes. Hein. Si demain vous avez une tempête à 150 à l'heure, n'allez pas dehors pour voir les arbres qui vous battent des mains. Parce que peut-être vous risquez de vous prendre une main vous aussi au passage. Non ? La question est de vous dire, Seigneur, comment je vis aujourd'hui ma vie avec toi ? Est-ce que je considère ce que ta parole me dit ? Alors Seigneur, s'il y a encore quelque chose dans ma vie qui ne va pas, je veux le régler. Pas demain, maintenant, Seigneur. Si tu devais venir cette nuit, Seigneur, je veux être en paix. Est-ce que quand ce texte dit que je me couche et je m'endors, Il faut être trompé. Ce n'est pas en disant « on va se demander pardon demain ». Quand il y a un problème dans un couple, le secret, c'est de le régler avant de s'endormir, dit la parole de Dieu, de ne pas aller s'endormir. C'est quoi le texte ? Plus fort. Voilà. Ma femme a parlé. Dieu ne veut pas qu'on aille se coucher, ni en colère contre nous, ni en colère avec ceux qui partagent notre vie, et encore moins en colère avec Dieu. Et moi, je n'ai pas envie d'aller me coucher en sachant que Dieu est en colère avec moi. Parce que je ne peux pas dormir tranquille en sachant que l'Éternel, il a des raisons d'être en colère avec moi. Qu'est-ce que je peux faire ? La parole de Dieu dit, venez, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Il est question, on a vu des arbres qui frappent des mains. Il est question aussi des arbres qui se réjouissent. Au lieu du buisson s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. L'ortie, c'est quoi ? Dites-moi. C'est quoi l'ortie ? Une plante qui pique, qui donne de... Ok. Et myrtille, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un fruit. Ça veut dire que si avant on donnait l'urticaire, après on devrait donner du fruit. Du fruit qui réjouit le cœur de Dieu, mais aussi ceux qui sont autour de nous. N'est-ce pas ? Qui veut porter du fruit ? Qui veut arrêter de se gratter, donner des raisons aux autres de se gratter quand on s'approche ? Oh Seigneur ! Quand je vois un tel, j'ai l'urticaire. Je commence à me gratter avant de le voir. Le Seigneur aimerait vraiment que nous puissions atteindre ce qui n'est pas à notre portée, mais qu'il est certainement à la sienne. Alors je voudrais dire juste à chacun de nous ce soir, si on n'y arrive pas par nos propres efforts, c'est normal. Ça ne veut pas dire arrêter de faire des efforts, non. Mais il y a une solution. Jésus. Et si d'un coup on est devenu anorexique spirituel, qu'est-ce qu'est un anorexique spirituel ? Qu'est-ce qui fait un anorexique ? Est-ce qu'il mange ? Il est question pour dire, Seigneur, guéris-moi pour que je puisse reprendre à m'alimenter. Normalement. Seigneur, que ce que je reçois de ta parole soit quelque chose qui fait du bien à mon corps, qui fait du bien à mon âme, que je le retienne et que ce soit pour moi une nourriture qui me permet d'aller plus loin. Peut-être qu'on a arrêté de lire la Bible, peut-être qu'on a arrêté de prier, peut-être qu'on a arrêté bien des choses parce qu'on est pris par les inquiétudes, les problématiques de ce monde. Et je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, profite aujourd'hui, parce que peut-être il y aura un moment où on n'aura plus autant d'accès à la parole de Dieu que nous l'avons aujourd'hui. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue dans un livre. C'était le témoignage d'un homme qui avait trouvé une Bible sur une plage. C'était un navire qui devait s'arrêter à un port et devait livrer des Bibles pour l'évangélisation. Mais les autorités ne lui ont pas permis de s'arrêter. Alors ceux qui étaient dans le navire, en sachant l'importance de ce qu'ils transportaient, ils ont dit on ne peut pas s'arrêter. Ils ont pris des sachets en plastique et ils ont mis une Bible dans chaque sachet et ils les ont balancés à la mer. Et la mer a ramené les Bibles sur les rivages. Et là, cet homme trouve cette Bible. Il sort de sa forêt, il trouve cette Bible, il la prend et il rentre à nouveau dans la forêt et il commence à la lire. Et la parole de Dieu touche son cœur, son âme. Il le bouleverse profondément autant que cet homme donne son cœur à Dieu. Et il s'est dit, mais je ne peux pas garder cette bonne nouvelle que pour moi. Et il allait de village en village pour lire la Bible aux autres. Et Dieu faisait de manière que ce que cet homme faisait produisait du fruit. Et un jour, finalement, une certaine liberté est arrivée dans ce pays. Et il y a des missionnaires qui sont arrivés en disant, mais dites-nous quels sont les besoins que vous avez. Ben nous, le besoin, c'est la Bible. Mais il vous en faut combien? Et cet homme lui dit, mais au moins 1000. 1000 Bibles? Oui, par semaine. Comment par semaine? Ben il dit, oui, il faut que je donne une Bible à chaque personne à qui j'ai parlé de Jésus. Et dit 1000, mais oui, moi je faisais avec une, je faisais le tour de tous les villages, mais personne n'a une Bible et tout le monde veut une Bible. Une Bible. Combien de Bibles nous avons à la maison qui prennent la poussière? Cet homme avait faim, avait soif et Dieu le nourrissait. Et il a trouvé d'autres hommes et d'autres femmes qui avaient faim et soif et Dieu les a nourris. Et Dieu a pourvu. Alors je voudrais vous dire encore une fois, peut-être il y a des choses qu'on a du mal à atteindre par nous-mêmes. Apprenons à compter sur le Seigneur. Fermons nos yeux. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce qu'elle nous transmet, ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous enseigne. Et Seigneur, nous te prions, aide-nous à ne pas nous laisser convaincre par la morosité ambiante, par les propos qui peuvent être aussi très fondés par rapport au monde, mais Seigneur, non pas fondés par rapport à ta parole. En tous les cas, Seigneur, ce n'est pas les solutions du monde qui vont régler le problème, puisque tu demeures la seule solution. Et pour que les choses se règlent dans notre vie, Seigneur, tu es la seule source de grâce, de pardon et de bénédiction. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Tu nous aides, Seigneur, à continuer à nous nourrir de ta parole. Seigneur, à ne pas nous laisser gagner par le climat dans lequel nous vivons, Seigneur, mais que nous puissions être des porteurs d'eau, des porteurs de pain, le pain de la vie qui est Jésus-Christ. Seigneur, encore aujourd'hui, si quelqu'un crie à toi, si quelqu'un, Seigneur, fait appel à toi, Seigneur, tu te laisses trouver. Seigneur, si quelqu'un invoque ton nom, tu répondras à sa prière. Alors merci, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur tous ceux et celles qui te cherchent vraiment. Et que ta gloire vienne resplendir dans leur cœur. Et changer, Seigneur, leur tristesse en joie, leur deuil en allégresse, leur confusion en paix. Seigneur, merci de changer ce qui est mort en quelque chose de vivant, cette foi qui se repose en Jésus-Christ et en ta parole. À toi toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Amen.